France Culture.
Avenue épisode 4, conversation artistique. Bonjour Francis Kurkdjian.
Bonjour Caroline.
Parce qu'on vous a laissé à la fin de l'épisode 3 sur cette idée de performance artistique qu'on a déjà bien entendu et vu si on a bien fait notre travail dans le premier épisode en immersion dans l'exposition qui vous a été consacrée à l'automne 2025 au Palais de Tokyo, qui est une sorte de rétrospective. C'est d'ailleurs un peu surprenant d'imaginer une rétrospective olfactive, mais avec vous, c'est ça. Donc l'idée, ce serait aujourd'hui de parler de vos rapports, de vos relations à certains artistes qui vous inspirent encore aujourd'hui, qui vous ont inspiré non seulement des parfums, mais aussi des créations de tous ordres. Et en particulier, la première d'entre elles, et elle remonte maintenant, et c'est presque un compagnonnage maintenant, la première d'entre elles remonte, je crois, à 1999, dans une rencontre que vous allez nous raconter, 4 ans seulement après avoir commencé dans la parfumerie, donc, puisque le mal est sorti en 1995. Et cette artiste, c'est Sophie Calle. Comment s'est déroulée cette rencontre ?
Je n'ai pas rencontré Sophie Calle en 1999. La demande, elle s'est faite par personne interposée. Et un jour, il y a un des collaborateurs avec lesquels je travaillais dans la société de composition où j'étais employé, qui ouvre la porte et qui me parle d'une commande, d'une artiste, Sophie Calle en l'occurrence, qui veut l'odeur de l'argent. J'avais donc 30 ans, pile poil. Je n'avais jamais entendu parler de Sophie Calle. C'était quand même il y a plus de 25 ans. Donc je ne savais pas qui c'était. Mais j'ai trouvé la demande incroyable.
Et saugrenue, surtout, en tout cas.
Saugrenue. Et surtout, je me souviens encore, et c'est ça qui a été le déclencheur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut comme argent? C'est quoi l'odeur d'argent? En fait, même après 4 ans de métier, j'étais tellement déjà conditionné dans la demande du client que la première chose qui m'est vraiment, je me suis dit, mais elle veut quoi? Et c'est là où on m'a répondu, mais en fait, elle veut ton interprétation. Et c'est ça qui a été un moment très fort pour moi. J'ai tout d'un coup compris que je pouvais exprimer mon opinion, ma vision. Parce que à partir du moment où j'ai composé Le Mal, toutes les commandes de parfums que j'ai réalisées étaient toutes sur commande. Un peu comme un bac, il devait composer sa cantate du dimanche et plaire à son mécène. Et finalement, je ressentais ça pendant les 4 années où j'ai travaillé, où il ne s'est rien passé dans ma carrière, une forme de, presque une frustration. Et je me suis dit, tu vas pas commencer ta carrière à être frustré comme les vieux parfumeurs que tu vois. Et tout d'un coup, Sophie, avec cette demande articulée telle qu'elle a fait, m'a ouvert, en fait, un terrain de jeu où je pouvais exprimer cette frustration, en tout cas la libérer, pour que quand je répondais à une commande d'une marque de couture, de beauté, ou un créateur qui voulait précisément un parfum un peu plus fruité, un peu plus ceci, un peu plus cela, en fait, je me retrouvais presque épanoui entre un terrain de jeu qui commençait à s'ouvrir à moi, libre de toute contrainte, et les commandes de clients plus cadrées, parce qu'un parfum, ce n'est pas une œuvre d'art, ça doit plaire. Voilà, ça doit être porté.
Vous ne l'avez pas rencontré à ce moment-là,
non.
Dites-vous, mais vous l'avez rencontré après.
Mais bien longtemps, on a fait un tournage.
Est-ce que vous avez su? Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi elle était venue vous voir, vous?
Non, mais je ne suis même pas convaincu qu'elle savait que j'existais, en fait. Je pense que c'est un concours de circonstances entre cette personne qui... Il y a des fois, et j'avoue, je n'ai jamais cherché trop à comprendre certaines choses dans ma vie parce que le résultat me suffisait et... Parfois, de trop décortiquer les mécanismes, pourquoi Sophie Calle a essayé... Alors, parfois, vous pouvez être déçu. Si on me dit juste, tu passais par là, et parce qu'elle a vu que tu étais là, bof, c'est moins sympa.
Vaut mieux pas demander, vaut mieux pas savoir.
Oui, je pense qu'il y a des fois, vous ne voulez pas savoir. Et ce qui compte, ça va être le résultat. Et depuis maintenant plus de 25 ans, à chaque fois que j'ai eu besoin de repayer de l'odeur de l'argent, et que j'ai sollicité Sophie Calle à travers sa galerie, et maintenant on a le contact direct depuis quelques temps, puisqu'on s'est trouvé des amis commun. Je pense à Jean-Michel Autoniel notamment. Voilà, maintenant, il y a le lien qui s'établit entre nous. Lien à tel point qu'elle m'a demandé de travailler. Enfin, on s'est lancé un défi un peu saugrenu, mais pas si saugrenu que ça, qui est de c'est quoi le parfum de Sophie avec tous les parfums qu'elle porte.
Oui, qu'on a vu dans les premiers épisodes.
Exactement. Donc, j'ai ce lien avec elle. Et puis, ça me suffit. J'ai pas besoin de décortiquer tout. Il y a des fois, je pose pas de questions. Pourquoi?
Alors, parlons du résultat. L'odeur de l'argent. Déjà, quand vous avez reçu ça, accepté le défi, de relever le défi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
C'est très simple. Enfin, c'est simple, oui, parce que l'auteur de l'argent, c'est quand même un thème très facile. Déjà, okay. Comme d'habitude, pour moi, il y a déjà ce qu'on dit, non pas la littérature, mais l'argent n'a pas d'odeur, blanchir l'argent, l'argent sale. Donc, il y a, dans l'argent, il y a cette idée de, à la fois, c'est propre et c'est sale, suivant la provenance et ce qu'on en fait. Ensuite, 99, j'habite encore à New York. Je travaille beaucoup à Paris, donc je suis dans une phase un peu de transition et aussi de mal-être, 99, parce que je vais rentrer à Paris. Ça va pas aux États-Unis pour moi professionnellement. Et aux États-Unis, New York, c'est les billets, c'est très papier-monnaie. On a des money clips qu'on a dans les poches, on a des liasses de billets de 1 dollar, de 10 dollars, on paye un hamburger avec 1 dollar, le taxi avec un billet de 10. Et puis le billet, il circule beaucoup, il voyage beaucoup, il vit beaucoup de choses. Il vit le matin, on peut acheter le bagel au coin de la rue sur 5e avenue. Le soir, on prend une course de taxi. Et puis moi, j'ai déjà eu dans les mains des billets qui avaient servi à rouler des rails de cocaïne.
Parce que donc, ils sont tous ça, l'argent.
Donc, c'était un peu tout ça.
On
ne
met pas tout ça dans un flacon, quand même.
Bah si, parce que c'est aussi l'odeur du papier.
Ça doit pas sentir très bon. Hein.
Non, ça sent pas très bon, ça sent l'odeur du papier. Donc, il y a cette idée du papier un peu de riz, cette encre du papier américain. Parce que le billet de 1 dollar par rapport au billet à l'époque 99, on est encore en francs, il ne sent pas la même chose. Donc, on peut comparer aussi. Et l'odeur du billet de 1 dollar, bah, il est gras, il fait sale. L'encre, elle est très singulière. Il est un peu caoutchouteux, il est très animal au sens cuiré. Il y a une matière première très importante en parfum qui s'appelle le castoreum. On ne peut plus l'utiliser aujourd'hui, mais c'était un extrait des glandes du castor. Alors, c'est un sous-produit, finalement, du castor. Parce que au Canada et en Sibérie, le castor qui fait des ravages, notamment dans les forêts, c'est considéré comme un nuisible. Et pendant très longtemps, le castor qui était abattu parce que c'était un nuisible, on utilisait sa peau, mais également un sous-produit pour la parfumerie qui s'appelle le castoreum, qui a une odeur qui sent l'encre, comme l'encre de Chine, l'encre des stylos-plumes. Bah, c'est sur de base là, et ça sent un peu le cuir, ça sent sale, un peu fécal. Et bah, un billet de 1 dollar, c'est à la fois le côté propre du billet fraîchement imprimé, l'encre qui n'est pas encore sèche, l'odeur du papier, c'est tout ça qu'il faut mettre dans un flacon. Et c'est fabuleux, parce que ça n'a pas besoin de sentir bon. Donc tout d'un coup, j'ai compris que j'ouvrais un champ d'un truc qui répondait à une forme petite angoisse existentielle de ma carrière de parfumeur qui s'ouvrait. Je me rendais compte que j'étais pas aussi libre que je pensais, que mes aînés l'avaient peut-être été à un moment donné. La parfumerie rentrait dans le rang d'une industrie, petit à petit, et qu'il fallait que je, pour ma survie, alors c'est un grand mot survie, mais pas loin, survie professionnelle, il fallait que j'aille ailleurs et que je respire. Voilà, c'est ouvrir les fenêtres hors du flacon.
On a vu à quel point vous avez respiré, ouvert les fenêtres avec ces performances, donc en dehors du flacon, notamment au château de Versailles, mais à plein d'autres endroits. Je pense aussi à la patinoire de Brookfield Place à Manhattan, dont la place était parfumée en sapin de Noël. Oh, j'aurais bien aimé sentir ça, par exemple.
Ouais, on va essayer de le refaire à Paris prochainement. On a des projets pour Paris.
Ça, ce serait bien pour que nous puissions comprendre ce que c'est que ce genre de performance olfactive. Mais en dehors de cela, comme vous dites que ça vous a permis d'ouvrir un certain nombre d'horizons et de vous libérer d'un certain nombre de choses, même si vous ne l'aviez pas rencontré à ce moment-là, s'est établi avec Sophie Kahl, grâce à cette commande, une forme de conversation, une forme de dialogue, qui s'est renouvelée ensuite, notamment dans le domaine des arts visuels. Alors, vous parliez dans le deuxième épisode de votre relation à la danse. J'aimerais bien que vous nous disiez, pour qu'on plonge un peu dans votre processus de création, que vous nous disiez comment vous vous nourrissez des arts. C'est-à-dire, par exemple, si je prends un exemple d'une collaboration ou d'une conversation, comme vous voulez, avec Yann Thomas. Vous avez fait L'Or Bleu en 2012, qui est une eau de source parfumée, qui est aussi à boire. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez là aussi comment c'est né, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour que, du point de départ au point d'arrivée, nous ayons ce processus. C'est 2012, là.
Yann Thomas, c'est une rencontre. Une rencontre fabuleuse parce que je trouve en Yann un Marcel Duchamp du 21e siècle. Et c'est un être d'une générosité folle, d'une d'une bonne humeur folle. Il vous emmène dans une forme de folie, une forme de folie artistique. Avec ses cheveux comme ça, son look un peu... moi, je trouve qu'il a un look un peu façon soviétique, années 50 ou 60. Quelque chose de tellement hors norme. Et Yann, c'est cette personnalité truculente. Et c'est venu parce que il travaillait sur le sujet de l'eau. On avait tout d'un coup, et je ne sais plus par, mais c'est, je crois que c'est venu par lui, en fait. Parfois, et ça a été chaque fois, mes rencontres artistiques, des personnalités qui m'emmènent dans leur univers. Je suis trop timide parfois pour aller faire de la démarche moi-même. Trop réservé. Et parfois, on pense que je suis hautain, mais en fait, c'est plus une manière d'être très réservé, très timide. Donc, c'est Yann qui m'a approché. Yann m'a demandé d'eux. On s'entendait très bien. Et puis, tout d'un coup, il m'a dit, j'ai ce projet de l'eau, l'eau source rare, l'or bleu comme étant la nouvelle ressource. On est quand même en 2012, il y a quand même une vision. Aujourd'hui, quand on parle de ça, ça paraît commun, la problématique de l'eau. On ne parlait pas du changement climatique encore en 2012.
Pas beaucoup, en tout cas.
Pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, Yann pose ces problématiques-là. On travaille avec la Fondation EDF qui nous aide à faire ce projet. Et c'est quoi l'eau en parfumerie? Et en fait, l'eau en parfumerie, c'est quoi? C'est l'eau de la Reine de Hongrie. Donc, si je retourne dans l'histoire de la parfumerie, l'eau de la Reine de Hongrie, c'est considéré comme le premier parfum au monde, en tout cas dans le monde occidental, parce que pareil, à l'époque, j'ai une vision très européenne de la parfumerie. Depuis, j'ai élargi un peu mes horizons, mais moi, je suis un élève de la parfumerie française, on va dire même occidentale, puisque c'est comme ça qu'on nous l'a imposé, finalement, et apprise à l'école de parfumerie. Depuis, j'ai un peu révisé mon point de vue. Et donc, l'eau de la Reine d'Hongrie, c'est un assemblage d'ingrédients qui date du XIIe siècle. On prête à cette eau des vertus. C'est une eau à boire parce qu'à l'époque, les produits sont composés de produits 100% naturels et à se mettre sur la peau. Et la légende voudrait que la Reine d'Hongrie, dans sa 80e année, faisait consommation excessive de cette eau, aurait rajeuni et se serait mariée avec le prince de Pologne de plusieurs dizaines d'années, son plus jeune qu'elle. Voilà. Donc on prêtait à cette eau des vertus à la fois de bien-être, de beauté, de un peu médical, avec ses ingrédients un peu d'apothicaire. On va retrouver du romarin, du thym, de la lavande et des choses comme ça. Et c'est considéré comme étant le premier produit composé, donc le premier parfum. Et donc, me voilà en train de parler de cette histoire-là à Yann. Yann saisit l'histoire et on se lance dans cette aventure folle avec une vidéo hilarante. Quand je montre ça aujourd'hui à mes amis, mais je suis avec une perruque, enfin on a trouvé ça un peu, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne. Je garde, vous parliez de la danse comme étant quelque chose de constitutif, c'est toujours mon point de retour, en fait. Il y a des ballets, quand on voit que l'argument a été créé par Jean Cocteau, que c'est Diaghilev qui est derrière, que c'est Coco Chanel qui fait des costumes, que Picasso va en faire le décor, et que c'est Nijinsky qui danse, en fait, et tout ça sans enjeu commerciaux, ni marketing, ni financier. Ce sont des amis qui se retrouvent et qui se font des délires, en fait. Aujourd'hui, ce monde-là a beaucoup évolué. Elles sont rares, ces initiatives de coin de table. Elles sont rares, ces initiatives de « et si on s'amusait ?» Parce qu'on rentre quand même, très souvent, dans des échanges marchands, des échanges financiers, où tel artiste va être payé pour faire une collab. Je peux en faire, hein, ça m'est arrivé d'en faire, mais plus que tout, je chéris ces grandes rencontres. Et Yann Thomas, je suis tellement content qu'il a accepté qu'on le retrouve dans l'exposition parce qu'on avait une fraîcheur, une innocence, un délire total. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, vont trouver ça complètement incongru, mais on a tellement bien rigolé. Et ça fait des belles amitiés également. Et j'ai beaucoup appris. C'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de libérer une part en moi de quelqu'un de très sérieux, à qui très jeune, on a demandé d'être relativement très sérieux quand même.
Vous parlez de l'importance de la danse, Francis Kurkdjian. De fait, avec la danse, il y a le côté visuel et puis évidemment, il y a la musique. La musique, elle est fondamentale. Vous l'avez déjà dit, mais vous l'avez ensuite mise en pratique avec des discussions, des dialogues divers, mais en particulier avec un jeune chef d'orchestre et violoncelliste, Klaus Makela, et les pianistes, les sœurs Labeck, Katia et Marielle Labeck. Alors évidemment, déjà, comment ça s'est passé aussi avec eux. Et puis ensuite, on va venir à ces relations spécifiques entre le parfum et la musique.
Ça commence avec déjà Béatrice Ardisson. En 2008, j'ai ma petite société où je fais mes parfums sur mesure et j'ai on va dire, la personne qui s'occupe de mon back-up office s'occupe aussi du back-up office de Béatrice Ardivon, c'est-à-dire c'est la personne qui va gérer toute l'administratif de ma petite structure de société. Et il me dit, je voudrais vous présenter quelqu'un, Béatrice Ardisson, je pense que vous allez bien vous entendre. Coup de foudre immédiat avec Béatrice Ardisson, qui à l'époque fait des remixes et qui accompagne des illustrations, elle crée des illustrations sonores. On part à New York et c'est par Béatrice, quand je crée ma maison en 2009, qu'on fonde ma maison avec Marshaya, on a un site internet marchand. Je veux une musique pour illustrer ce site internet et j'exprime mes goûts à Béatrice Ardisson. Et il y a un morceau que j'aime plus que tout qui est la pavane pour une infante défunte de Ravel. Il y a un thème dans la pavane qui est toutes les X mesures qui est reformulé, un peu comme un parfum qu'on retouche, qu'on retranscende. Je confie cela à Béatrice qui me dit il y a un duo qui l'a très bien joué, que j'aimerais approcher, c'est les Sœurs Labeck. Donc je me souviens encore, c'était le 14 juillet 2009, 2 mois et demi avant le lancement, nous avons rendez-vous avec Katia et Marielle Labeck à Paris, dans leur studio parisien. Elles sont de passage, on a 1h30. Je suis inconnu, elles ne me connaissent pas. On y va avec Béatrice Ardisson, on se pose, il fait une chaleur épouvantable. Elles disent oui. Non seulement oui, on va vous prêter l'enregistrement, on va vous donner les droits de ce qu'on a enregistré, mais en plus, par rapport à votre idée, on va vous rajouter une dimension un peu, une musique un peu électronique. Et c'est David Chalmin, donc c'était maintenant il y a presque 17 ans, qui va nous faire aussi ce cadeau-là. Et ça fait 17 ans que, petit à petit, cette rencontre professionnelle, voilà, au départ, fortuite, parce que je n'aurais jamais osé demander à Katia et Marielle tout ça. C'est aussi Béatrice qui m'a aidé. Et depuis, c'est Katia et Marielle qui sont, comme je les appelle, ces femmes qui parcourent ma carrière comme ça, que je rencontre, mes fées marraines, qui m'ont... Katia m'appelle un jour et me dit « Il faut absolument que tu dises oui. » Bon, Katia, je pourrais... Enfin, Katia et Marielle, elles me demandent n'importe quoi, je le fais. « Il faut que tu dises oui. » Il faut que tu travailles avec la Philharmonie, tu vas recevoir un appel de ma part. Appelle tout de suite, c'est important. C'est comme ça qu'on me met en relation avec Klaus Makela. C'était, je ne sais pas, 4-5 ans peut-être maintenant. Et voilà, je rencontre Klaus, on se rencontre. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais qu'il aime les parfums. Je ne sais pas trop qui c'était
non plus. C'est déjà un bon début.
Oui, il faut un peu quand même trouver des points de rencontre. Il aime les parfums. On se rencontre deux fois avant de comprendre ce qu'on allait faire ensemble. Parce qu'on a mis du temps, parce que je refuse les choses gratuites, les choses qui n'ont pas de sens, les projets, juste pour faire des projets, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait du sens dans ce que nous faisons.
Alors, on va donner quelques exemples. Vous avez libéré des accords parfumés pour chacun des 5 mouvements de la suite pour violoncelle numéro 2 de Bach, interprété par Klaus Makela. En février 2023, à l'Opéra National de Vienne, en Autriche, la mise en scène par Cyril Test, dont on va parler dans un moment, du Salomé de Richard Strauss, ouvre sur la création d'un parfum charnel épicé et musqué diffusé lors de la danse des 7 voiles. En mars 2024, à la Philharmonie de Paris, les suites pour 2 pianos de la trilogie Cocteau de Philippe Glass, interprétées par les Sœurs Labeck au piano, sont mises en écho avec des senteurs diffusées dans l'auditorium, et la scénographie est là aussi conçue par Cyril Test, avec Nina Chalot. Voilà quelques exemples de ce qu'on pourrait appeler des concerts olfactifs.
Oui.
Est-ce que c'est un mot, une expression qui pourrait vous convenir?
Oui, ça peut être vu comme un concert olfactif.
À quel moment vous intervenez?
Alors, c'est différents moments et différentes histoires, et je suis intervenu différemment. L'histoire avec Klaus Makela, elle est co-construite. On ne savait pas où on allait. On avait envie de le faire, de faire quelque chose, de faire que les arts se croisent, que la musique et le parfum se rencontrent. Le langage de la parfumerie emprunte beaucoup au langage de la musique. Alors, si on passe...
Les notes, les touches, les nuances.
Oui, pardon. Oui, mais il faut passer ce cap-là parce que c'est plus que ça. C'est finalement beaucoup plus que ça. Il faut passer le cap du vocabulaire. La musique est invisible. Le parfum l'est aussi. Quand je dis que la musique est invisible, si on ne voit pas un instrument qui joue, on peut l'écouter. On ne le voit pas forcément. Bah, le parfum, on peut le sentir, on ne sait pas d'où il vient. La musique occupe l'espace. Un parfum doit occuper l'espace, parce qu'un parfum qui reste collé sur la peau et qui ne parcourt pas 30 cm autour de vous, bah, en fait, vous ne le sentez pas. Un parfum est fait pour être senti. Un parfum se compose. Évidemment, il y a l'idée des accords et des notes, mais la composition d'un parfum, elle se rapproche de la composition musicale à tel point que quand vous lisez une partition de musique, pour ceux qui savent lire une partition, notamment une partition de piano ou une partition d'un instrument, Si vous connaissez la lecture des notes, vous pouvez fredonner la mélodie. Quand je lis une formule de parfum, je peux quelque part en fredonner la mélodie dans ma tête. Donc il y a beaucoup plus de points communs que ces histoires d'empreintes vocabulaires. Donc on voulait absolument avec Klaus se rencontrer quelque part. Voilà, trouver du sens, voilà, c'est de la gueule quand même. Et donc on a quand même mis beaucoup de temps. Entre le moment où on s'est retrouvé à la Philharmonie et le moment où on a réfléchi, c'est passé presque plus d'un an. Déjà aussi parce que tous ces artistes ont des agendas créatifs qui se déroulent presque sur un an, voire deux ans. Katia Mariel pour les attraper, comme Klaus pour les attraper. Il faut vraiment se poser longtemps à l'avance. Et puis trouver quelque chose qui soit intéressant, déjà pour nous, parce que si, moi je pars du principe que si je ne suis pas le premier à être excité par l'idée, je vais avoir du mal à embarquer mes équipes qui me soutiennent, et puis surtout le public, des spectateurs, il faut que tout ça, c'est pas juste se faire plaisir. Et tout d'un coup est née l'idée, comme Klaus aimait beaucoup les parfums, est née l'idée déjà qu'il choisisse le morceau de musique, donc c'est lui qui a choisi le bac et le violoncelle. Ça aurait pu être l'orchestre. Il a eu carte blanche. Alors, c'est plus facile, c'est sûr, de déplacer un violoncelle que de déplacer un orchestre. Et on a convenu de ce, comment dirais-je, ping-pong émotionnel où Klaus, ayant choisi cette suite au violoncelle, m'a livré ses impressions et ses émotions que j'ai recueillies. J'ai pris des notes. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de choses un peu sombres, de la brume, voilà, tout ce verbatim-là. Et j'ai réécouté Klaus interprétant la suite numéro 2, relisant ses notes pour essayer de me mettre dans sa peau, voilà, dans la peau de Klaus Makela interprétant. Et j'ai recomposé pour ces 5 mouvements de la suite numéro 2, j'ai recomposé à chaque fois un parfum en essayant de trouver une articulation de formule, trouver le fil conducteur. Et c'est Klaus qui m'a guidé dans la composition, puisque pour chacun des extraits, Klaus me livrait à la fois ses émotions, mais aussi un cours d'éducation musicale, historiciser quand, pourquoi, comment tout ça s'articule. Moi, je ne suis pas un musicologue, j'apprécie la musique, mais je n'en ai pas la connaissance profonde. À tel point qu'à la fin, quand Klaus m'a dit que le dernier mouvement était la synthèse de tous les mouvements précédents, Je me souviens ce matin-là quand j'ai composé, je compose souvent le matin. En tout cas, je crée le matin, je pose les bases le matin. Il faut que je sois super comme une page blanche, en fait. Je me suis retrouvé devant un conflit. Est-ce que, puisque Klaus me dit que c'est la synthèse de Bach, est-ce que je prends juste les 4 précédents accords et je les assemble comme une composition finale qui est ultimement l'assemblage des 4 premiers mouvements? Ou est-ce que je refais une version ad hoc libre de ce que Bach m'aurait peut-être guidé de faire? Et à la fin, j'ai proposé à Klaus 2 options. On va dire l'option de Bach, quelque part, le 5e mouvement et la synthèse des 4, ou alors l'option Klaus Makela Bach. Et quand on a joué la... Je m'identifie, mais quand il a...
Bah, c'est un travail à deux, là.
Voilà, mais quand il a joué à la Philharmonie, en sentant les accords, parce que l'idée, c'était de composer ses notes et que Klaus sente les accords et interprète Bach après avoir reçu l'émotion du parfum. Il y a quelque chose d'un peu complexe dans l'histoire, mais c'est un peu comme ça que ça s'est articulé, Klaus. C'était super intéressant. Parce que c'est tout d'un coup, c'est rentrer dans la peau d'eux, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est être dans la peau de quelqu'un d'autre, un peu comme quand j'étais au ballet, je reviens à ça, rentrer dans la peau d'Ivan le Terrible, dans la peau de Petrouchka, dans la peau du prince charmant, c'est tout d'un coup, c'est intéressant d'avoir plusieurs vies, finalement.
Là, c'est ce que vous dites beaucoup, vous plongez dans l'univers de la personne. Donc, on a vu avec Sophie Kahl, avec Yann Thomas et avec Klaus Makela, par exemple. Est-ce que vos dialogues artistiques, quand vous créez, quand vous composez, on va l'utiliser le mot maintenant, est-ce que vos dialogues artistiques se passent de façon différente pour vous à tout moment? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes nourri intérieurement, d'un Pierre Soulages, d'un travail sur la lumière d'un James Turrell, et je cite ces artistes pas au hasard, évidemment, parce que je sais qu'ils sont importants pour vous. Donc, comment se passent vos dialogues artistiques intérieurs, cette fois, puisque là, vous ne plongez pas nécessairement dans l'univers de ces artistes, mais ils viennent à vous?
Le plus... c'est compliqué à expliquer. Ces artistes m'inspirent non pas forcément par le résultat, mais par la manière dont ils réfléchissent pour arriver au résultat qu'ils proposent et à l'œuvre qu'ils proposent. J'ai eu cette chance inouïe d'assister au réglage d'une œuvre de James Turrell in situ. C'était en banlieue parisienne. Et parce que je connaissais l'équipe, en fait, c'est une équipe française qui crée les tubes néons utilisés par James Turrell dans ses œuvres. C'est une équipe française qui crée ces tubes néons et c'est un ami et qui m'a proposé un jour d'assister au réglage ultime d'une installation de James Turrell. C'est assez fabuleux parce que vous avez les équipes qui sont réunies sur un toit terrasse de parking, parce que l'œuvre était en face du parking, au bord de l'autoroute. C'est, de mémoire, c'était le centre de recherche de Citroën à Vélizy. Donc l'équipe est là, affairée depuis des semaines, et tout d'un coup, vous avez le maître qui arrive et qui part trois petits réglages et quatre indications, va faire que tout d'un coup, vous comprenez ce que c'est que le génie créatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le chemin pour arriver quelque part. Le résultat est toujours intéressant, évidemment, mais dans ma démarche artistique, ce qui, moi, m'intéresse et me nourrit, c'est comment puis-je changer ma pratique olfactive? Comment puis-je modifier l'accord ambré qui a été créé à la fin du 19e siècle? Parce que c'est un peu l'alpha et l'oméga de mon métier. C'est comme, quand on est au Louvre, et que vous imaginez l'histoire du portrait. Le portrait, visuellement, c'est quoi? C'est un peintre qui peint une figure sur un support. Et on peut imaginer qu'il y a les portraits du Fayoun, et puis il y a les portraits à la Picasso, et puis il y a l'histoire de la peinture entre les deux, finalement, et l'histoire du portrait. Et finalement, chaque grand artiste va apporter sa valeur ajoutée. Un Léonard de Vinci va rajouter le sfumato. Clac, et tout d'un coup, vous allez avoir, si on pousse à l'extrême, un Picasso va vous le déconstruire au point que ça cubiste et que même parfois on ne comprend plus rien. On dépasse le portrait. Et finalement, la parfumerie, c'est réinventer des schémas qui existent. Et j'ai appris ça un peu sur le tard quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la parfumerie parce que, in fine, à l'école de parfumerie, j'ai remis en cause beaucoup de choses qu'on m'avait apprises et j'ai adoré remettre en cause ça. Et la pratique avec les artistes m'a obligé à remettre en cause des poncifs qu'on nous enseignait à l'école de parfumerie, parce que dans les pratiques des autres arts, c'est ce qu'on remet en cause constamment. En musique, on apprend, et j'aurais pu imaginer ça avant, parce que ayant commencé le piano à l'âge de 6 ou 7 ans, bah oui, quand je joue Bach, quand je joue Chopin, quand je joue Debussy, je comprends que ça évolue. Mais je ne l'avais jamais intégré pour la parfumerie. Et tout d'un coup, en apprenant de personnalité artistique ou d'artiste, je comprends qu'il faut que je remette en cause et qu'il faut que j'applique surtout à la parfumerie quelque chose qu'il ne m'avait jamais enseigné, ou alors peut-être que je l'avais jamais voulu l'entendre. Mais je pense qu'on ne me l'avait jamais enseigné. Et quand maintenant je l'enseigne à mon tour à des jeunes parfumeurs, ça résonne et je trouve ça assez fabuleux.
C'est d'autant plus fabuleux, Francis Curgeon, que ce sera précisément le sujet de notre conversation de demain, l'épisode 5, qui parlera d'histoire, puisque vous qui n'aimez pas nécessairement regarder le passé ou parler du passé, ce que vous faites là constamment à cause de moi, en même temps, effectivement, vous réinventez sans arrêt l'histoire de la parfumerie et vous faites des ponts entre le passé et le présent dans vos créations. À demain.
À demain.
Pour l'épisode 5, une histoire de temps.
C'était À Voix Nue avec Francis Curgeon, réalisation Nathalie Salle, prise de son Loïc Duros et Julien Girard, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.